Un, deux. Ça va? OK. Donc, nous allons poursuivre notre série sur la résolution des conflits. Donc, les conflits, c'est quelque chose qui... Tout le monde est concerné par ça. Je pense qu'il arrive... Dans une semaine, ça arrive... je voudrais dire, tous les jours, ça nous arrive presque. Hein? On est en conflit des fois avec nous-mêmes, conflit avec les autres aussi. Mais la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur les conflits et comment les régler. Premièrement, bien, Christ est notre paix. Donc, déjà là, on a déjà la paix avec Dieu en tant que croyant. Donc, c'est déjà une source de conflit qui est diminuée. Parce que le premier conflit qu'on a, c'est avec Dieu. On est en rébellion avec Dieu. Donc, c'est le premier conflit qu'on a. Donc, on va... Mais là, on parle de la résolution de conflits entre nous, entre les humains. Et si nous avons reçu la... Dieu a résolu les conflits avec nous, ça nous donne des armes, des moyens pour résoudre les conflits entre nous. Donc, on se rappelle, donc, les cinq R. Le premier, c'était quoi? Rendre gloire à Dieu. Donc, ça, c'est vraiment important parce que dans un conflit, habituellement, on est centré sur nous-mêmes. Si on a l'esprit de rendre gloire à Dieu, oh, ça enlève le focus sur nous. Hein? Et on en regarde à Dieu. Donc, ça nous permet de nous détourner de nous-mêmes. Je pense que c'est la première étape dans une résolution de conflit. Donc, comment rendre gloire à Dieu dans cette situation-là? Le deuxième R, retirez la poutre dans votre œil, donc dans notre œil. OK? Donc, dans un conflit, comme on l'a appris, on est même, il y a toujours deux parties. Hein? Et on est, même si on est responsable de 2% du conflit, bien, on est 100% responsable de notre 2%. OK? Donc, c'est ça. C'est quoi nos torts dans ce conflit-là? Ça peut être juste quelque chose qu'on a une mauvaise compréhension. Donc, voir notre part de responsabilité. OK? Et qu'est-ce que ça a causé à l'autre? Ensuite, bien, on peut relâcher la dette que l'autre nous doit. Donc, des fois, c'est possible. D'autres fois, ce n'est pas possible. Donc, est-ce que ça vaut la peine de vraiment adresser ça ou c'est juste... Si c'est quelque chose qui arrive juste une fois, peut-être, ou qui n'est pas trop grave, on peut peut-être passer par-dessus, puis remettre la dette, relâcher la dette. OK? Donc, ça peut arriver aussi. Ensuite, donc, redresser avec douceur, parce que notre but, c'est d'avoir la réconciliation. Et pour le bien de l'autre, des fois, il faut vraiment adresser certaines choses. Et on a vu qu'il y avait plusieurs étapes, donc seul à seul, dire la vérité dans l'amour, chercher de l'aide, peut-être qu'on va avoir besoin d'un médiateur. Et aussi se poser la question, vaut-il la peine de se battre aussi pour ce conflit-là, pour redresser? Et évidemment, le dernier R, c'est le but, la résolution de conflit. Donc, rechercher la réconciliation. Et c'est un petit peu là qu'on est rendu, rechercher la réconciliation. Et aujourd'hui, donc, on va voir vaincre le mal par le bien. Vaincre le mal par le bien. Et je vais reprendre un petit peu la façon de faire de Brian, c'est qu'il met tout le temps le punch. Donc, le résumé, donc, c'est... Vaincre le mal par le bien est impossible par nos propres forces humaines, que nous soyons croyants ou non. Okay? Ça prend une puissance surnaturelle qui commence par une nouvelle naissance en acceptant le Christ de l'Évangile et par une restauration de nos cœurs par ce même Évangile à tous les jours. Donc, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement vaincre le mal. Il faut que ça vienne... Il faut puiser dans l'Évangile de la grâce à chaque jour. Comme Étienne le disait souvent, il faut se prêcher l'Évangile à chaque jour. Et vous allez voir que dans le passage qu'on va regarder, on va en avoir besoin. Donc, le passage d'aujourd'hui, donc c'est dans Luc, chapitre 6. Et pour ceux qui ne l'ont pas, donc je l'ai mis ici. Donc, Luc 6, verset 27. Ça va comme suit. Est-ce que ça va? Oui. Donc, ça fait suite aux béatitudes, au sermon sur la montagne. OK? Donc, verset 27, donc, il dit. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérer recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera très grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Tout qu'un contrat, hein? Tout qu'un contrat. Je ne sais pas si vous connaissez le cinéaste Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain. Donc, il a participé à un documentaire de L'heureux naufrage. Je ne sais pas si vous connaissez L'heureux naufrage. C'est un documentaire qui a été fait par Guillaume Tremblay, qui vient de l'Ascension. C'est le fils de Sylvette et... Yvan Tremblay, Sylvette Gaudreau, Yvan Tremblay, qui vient de l'Ascension. Ils viennent de l'Ascension. Et il a dit la chose suivante, il dit que le christianisme est unique par rapport à toutes les autres religions à raison du commandement « Aimez votre prochain comme soi-même ». Il dit « Il n'y a aucun égal ». Il dit « Il y a le bouddhisme qui ressemble un peu, mais c'est plus une compassion passive, mais aimer votre prochain, c'est actif ». Et je crois qu'il a raison. Mais notre passage aujourd'hui là, va encore pas mal plus loin. Aimer notre prochain, ce n'est pas nécessairement notre ennemi, c'est plus facile à aimer. Donc, et leur faire du bien, ça va encore plus loin. Et je dois vous avouer que quand j'ai commencé à travailler, à préparer cet enseignement-là, j'étais bloqué, j'ai dit, comment je vais faire pour enseigner à aimer ses ennemis quand je suis à des années-lumière de là, de vouloir aimer de désirer aimer mon ennemi, et à des millions d'années-lumière de vouloir lui faire du bien, parce que c'est beau de l'aimer, tu peux l'aimer de loin, hein, tu sais, tu dis oh, je l'aime, et avoir un sentiment, mais là, faire du bien, là, c'est encore plus loin. Donc, je vous avoue que ça n'a pas été facile. Et j'ai été obligé d'aller au pied de la croix et aller visiter ça. Et c'est un petit peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, avant de continuer, je voudrais prier. Oui, Père Céleste, à travers ce passage, tu m'as beaucoup parlé, tu m'as saisi, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi, Seigneur, pour aimer mes ennemis, pour leur faire du bien, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses aider mes frères et sœurs à travers cet enseignement aussi, que ce ne soit pas une occasion de les décourager, mais une occasion pour aller de plus en plus vers toi, dépendre de toi, et que tu fasses un œuvre dans chacune de nos vies. Pour la gloire de ton nom que je te prie. Amen. Donc, on va regarder le premier verset. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, j'ai trouvé un passage qui ressemble beaucoup à ça dans un épître de Paul. C'est dans Romains 14, je l'ai mis. Donc, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que, me semble que, pourquoi qu'il dit, après, de dire, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Quand tu bénis, tu ne maudis pas. Pourquoi qu'il faut qu'il se sent obligé de rajouter ça? Bien, je me suis dit, peut-être qu'il veut mettre de l'emphase sur le fait qu'il veut qu'on bénisse vraiment, réellement, de tout notre cœur. Parce que c'est facile de dire, ah, je le bénis, mais dans notre cœur, on ne le bénit pas avant tout. Donc, il veut vraiment mettre de l'emphase. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Hein? Lorsque nous sommes en conflit, ce n'est pas notre réaction première ou naturelle de bénir. C'est plutôt maudire et nous venger qui est naturel, n'est-ce pas? C'est ça qui nous amène. Et ce n'est pas évident. Je crois de plus en plus que pour aimer nos ennemis, il faut qu'on s'accroche à l'amour que Dieu nous a mis dans notre cœur. Il faut vraiment aller devant Dieu parce que, humainement parlant, c'est impossible. Impossible. Par la suite, il nous dit, « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Il y a plusieurs interprétations dans ce verset-là, mais je ne pense pas que c'est littéral, OK? Dans le sens, faut se laisser faire et tout ça. Il y a certaines interprétations qui disent, qui vont dire, si quelqu'un t'a frappé, ça se peut qu'il te frappe encore, donc sois prêt à tendre l'autre joue. Ça pourrait être ça, oui. Mais dans tous les cas, je pense que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus nous demande d'avoir une attitude intérieure de force morale qui démontre que nous ne voulons pas nous venger. Autrement dit, ne pas agir comme notre agresseur nous a fait. Pas être sur le même pied, pas se rabaisser à être comme lui fait s'il nous fait du mal. De vaincre le mal par le bien. Donc, et ça, c'est pas facile non plus. OK? Et le verset 30 aussi, un petit peu dans le même sens, « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Encore là, c'est une disposition de cœur à donner si quelqu'un te le demande. Donc, très important s'il te le demande et à donner. En passant, il ne dit pas « tout donner ». Des fois, tu ne mettras pas ta famille dans le trouble pour donner à quelqu'un. Il faut que ça soit quand même, il ne faut pas que ça te nuise à toi. Mais c'est une disposition de cœur à donner à quelqu'un qui te le demande et ne pas fermer notre cœur à cette personne, même si c'est ton ennemi. Parce qu'on peut donner à un ami, mais là, quand c'est un ennemi, c'est encore une coche un petit peu plus haut. Donc, ce n'est pas évident. Donc, avoir cette disposition de cœur. Ensuite, on a ce passage-ci. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Un passage que Brian nous a dit ou hein? Comment il avait appelé ça? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour de même. Il a appelé ça comment? Ouais. Il a appelé ça la règle d'or, tu sais. Puis souvent, on avait tendance à la déformer. Faites pas aux autres qu'on veut pas qu'on vous fasse. Bien, ça, c'est un petit peu passif. tu ne fais pas le mal, OK? Mais là, il dit, faites aux hommes ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc, ça va plus loin encore, OK? Donc, c'est la règle d'or. Donc, c'est une règle qui nous pousse à l'action. Ce n'est pas passif. Donc, parce que rien faire, ne pas faire le mal, c'est comme passif, dans certaines façons. Quoique des fois, il faut être actif dans le combat qu'on veut, quand on veut faire le mal, là, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, mais la règle d'or, ça va plus loin, ça nous pousse à l'action. Et après avoir parlé de cette règle d'or-là, Jésus fait une comparaison entre les non-croyants et les croyants au verset 32-34. Et je vais vous mettre la version parole vivante, parce que j'aime comment ce qu'ils disent, parce que dans la version seconde que j'ai lue, quel gré vous en saura-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Et ça. Donc, si vous aimez seulement vos amis qui vous entourent, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les non-chrétiens aiment aussi leurs ennemis. Et si vous faites seulement du bien à ceux qui vous en font, pourquoi attendriez-vous à être félicités? Ceux qui ne sont pas chrétiens agissent suivant les mêmes principes. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les non-chrétiens aussi se font des prêts entre eux parce qu'ils espèrent qu'un jour on leur rendra le même service. Donc, c'est facile pour tous d'aimer ceux qui nous aiment. C'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Et ce comportement est si naturel que tout le monde peut le faire et voyez que le monde quand nous entoure, ça ne change pas gros le monde. Hein? On veut rendre l'appareil, on veut qu'on soit à 50-50 souvent. Hein? Donc, les banques et les organismes de crédit prêtent de l'argent dans l'espoir d'obtenir un bénéfice, de récolter des intérêts. Donc, finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour aimer ceux qui nous aiment. N'est-ce pas? On est très capable de le faire et ce n'est pas une preuve, justement, d'avoir une vie divine, d'une vie chrétienne pour faire ça. Tout le monde le fait. Même les... j'avais déjà entendu, moi, des fois que... Je ne sais pas si les mafieux, des fois, italiens et tout ça, ils sont des meurtriers souvent, mais des fois, il y aura peut-être des notions à nous donner sur la famille. La famille, pour eux, c'est très important, aimer ses enfants. Ils aiment. Peut-être que certains mafieux aiment mieux leurs enfants que nous. Donc, mais ils n'ont pas Dieu nécessairement. Donc, on peut apprendre. Ça vient, je pense. Ça ne prend pas la vie divine en nous pour faire ça, finalement. OK? Donc, et là, il revient. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, on voit ici l'importance que Jésus accorde, aimer nos ennemis, faire du bien, prêter sans rien espérer, parce qu'il répète depuis le début. Il répète ce qu'il avait dit au début. Cette façon d'agir est typiquement chrétienne et permet de reconnaître les fils et les filles de Dieu, les fils du Très-Haut. Cependant, ce n'est pas en pratiquant ces choses que l'être humain devient fils ou fille du Très-Haut. Ça, c'est très important. Ah, si je fais ça, je vais devenir. Non, ce n'est pas ça qui fait qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est uniquement en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et en demandant pardon pour mes propres actions. Et ces actions d'amour vont démontrer, vont prouver que vous êtes vraiment enfant de Dieu. Et Jésus termine en disant, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Qu'est-ce que ça veut dire être miséricordieux? Bien, être miséricordieux, c'est une compassion qui nous pousse à pardonner, quand bien même nous aurions la possibilité de nous venger. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, en ne nous infligeant pas le châtiment que méritaient nos péchés. Il veut qu'à notre tour, nous soyons miséricordieux envers les autres. Encore ici, nous avons à approfondir la miséricorde de Dieu afin de pouvoir être miséricordieux autour de nous. Et je vais peut-être aller plus loin ici et vous poser une question. Est-ce que vous êtes miséricordieux envers vous-même? Est-ce que nous sommes miséricordieux envers nous-mêmes? C'est important, ça aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette miséricorde envers nous-mêmes? Bien, ça implique de ne pas être trop dur envers nous-mêmes, ne pas se critiquer de manière excessive, de prendre soin de ses propres besoins émotionnels et physiques, accepter nos limites. Et ça, c'est pour moi, c'est dur d'accepter mes limites. Vous voyez, je pensais qu'il fallait que je sois capable de tout appliquer, aimer tes ennemis pour prêcher, mais non, je ne suis pas capable. Il faut que j'accepte mes limites. J'ai besoin de Dieu. Et ce n'est pas de la complaisance, ça, d'être pas trop dur envers nous-mêmes. La complaisance, c'est le fait de faire preuve d'indulgence envers quelqu'un ou soi-même, même si cela peut être nuisible pour moi ou pour l'autre personne aussi. Donc, la complaisance, ce n'est pas bon pour nous. Être miséricordieux aussi peut aider à renforcer la confiance en soi, à améliorer la résilience face aux défis de la vie et maintenir un état d'esprit positif. Et si on n'est pas miséricordieux envers nous autres, je pense qu'il y a un ennemi qui va nous accuser et qui va nous rendre coupables, et ça ne nous aidera pas. Également, être miséricordieux, ça peut éviter des comportements autodestructeurs, tels que l'excès d'autocritique ou la culpabilité excessive. Et si nous ne sommes pas capables d'être miséricordieux avec nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire pour les autres. Quand nous sommes exigeants envers nous-mêmes, nous devenons exigeants aussi envers les autres aussi. Et ça. Et souvent, dans nos conflits, c'est ça qui arrive. On exige quelque chose de quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de le faire. Et là, on est fâché et ça peut amener un conflit. Donc, comment agir maintenant dans tout ça? Bien, au lieu de réagir par rancune envers ceux qui nous maltraitent, Jésus veut que nous discernions leurs plus profonds besoins et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour les combler. Parfois, ça va demander que nous allions vers eux pour leur montrer leur faute. Mais parfois, cela demandera de la miséricorde et de la compassion, de la patience et des paroles d'encouragement. Nous pourrons même avoir l'occasion d'assister matériellement et financièrement ceux qui ne le méritent pas ou qui ne s'y attendaient pas. L'amour et la miséricorde sont des armes puissantes pour nous protéger nous-mêmes aussi. Également. Car en agissant ainsi, avec amour et miséricorde envers notre ennemi, ça nous protège de la colère, de l'amertume et de la soif de vengeance. De plus, l'amour et la miséricorde, ça nous protège de donner accès à l'ennemi, et comme Brian l'a dit, d'avoir les conséquences néfastes du refus de pardonner. Je voudrais vous lire une petite histoire que j'ai lue dans l'Artisan de paix, qui est une histoire vraie. Donc, ça va comme suit. Gordon fut, par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, Gordon fut capturé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale et fut forcé, avec d'autres prisonniers anglais, à endurer des années de mauvais traitements pendant qu'il construisait la célèbre route de la mort en Thaïlande. Face à la famine, à la maladie dans les camps et à la brutalité des gardiens qui tuèrent de nombreux de ses camarades, Gordon survécut et devint un puissant exemple du triomphe de l'amour chrétien sur la perversité humaine. Cet amour brilla un jour lorsque Gordon et ses prisonniers s'approchèrent d'un train rempli de soldats japonais blessés qui étaient transportés vers Bangkok. Voici comment Gordon décrit l'œuvre de la grâce de Dieu. Ils étaient là sans aucune assistance médicale. Leur uniforme était taché de boue, de sang et d'excréments. Leurs blessures enflammées et pleines de pus grouillaient d'asticots. Nous pouvions comprendre maintenant pourquoi les Japonais étaient si cruels envers leurs prisonniers s'ils ne prenaient pas soin de leurs blessés. Pourquoi prendraient-ils soin de nous? Ces hommes blessés nous regardèrent esseulés lorsqu'ils s'essayaient, leur tête appuyant sur les wagons, attendant avec fatalité leur mort. Ils étaient les détritus de la guerre. Ils ne savaient où aller et personne ne prenait soin d'eux. Sans un mot, la majorité des officiers qui étaient dans ma section débouclèrent leur paquetage, prirent une partie de leur ration et un chiffon et l'eau de la cantine à la main. Ils s'approchèrent des Japonais pour essayer de les aider. Nos gardiens tentèrent de nous dissuader, mais nous les avons ignorés et nous sommes agenouillés près de nos ennemis pour leur donner de la nourriture et de l'eau, pour nettoyer et bander leurs plaies, pour sourire et leur donner du réconfort. De nombreux remerciements, arigato, furent lancés lorsque nous partions. J'observais mes camarades avec émerveillement. 18 mois auparavant, ils se seraient lancés dans la destruction de ceux qui nous avaient capturés s'ils étaient tombés entre nos mains. Mais maintenant, ces mêmes hommes pansaient les plaies de leurs ennemis. Nous avons expérimenté un moment de grâce, là, dans ces wagons tachés de sang. Dieu a brisé nos barrières de préjugés et nous a donné la bonté d'obéir à son commandement « Tu aimeras ton prochain ». C'est quelque chose. Des personnes qui nous ont maltraités, pas juste une fois, là, constamment, jour après jour, et qu'on peut, par la suite, leur faire du bien. Donc, vaincre le mal par le bien est impossible par nos propres forces humaines, que nous soyons croyants ou non. Ça prend une puissance surnaturelle qui commence par une nouvelle naissance en acceptant le Christ de l'Évangile et par une restauration de nos cœurs par ce même Évangile à tous les jours. Humainement parlant, c'est impossible d'aimer nos ennemis. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour le faire. Et pour ça, nous devons demander à Dieu de nous remplir de son amour pour aimer en retour. Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Si l'amour de Christ ne remplit pas nos cœurs, il est impossible d'aimer. C'est pourquoi nous devons réaliser que nous ne méritons pas l'amour que Dieu nous a donné. Si nous ne demandons pas à Dieu de nous remplir de son amour, de goûter à son amour, nous ne pourrons pas aimer les autres et encore moins nos ennemis. J'ai vraiment besoin chaque jour de me rappeler l'amour de Dieu pour moi. J'ai besoin qu'il vienne guérir mon cœur de tout ce qui m'empêche de recevoir son amour et d'aimer. Il manque une page. Ah oui, là. Excusez. Donc, comme je disais, j'ai besoin chaque jour de me rappeler l'amour de Dieu pour moi. J'ai besoin que Dieu vienne guérir mon cœur. C'est comme un vase, hein? Et Dieu a besoin d'élargir ce vase-là pour qu'il puisse mettre son amour en moi. Et des fois, il y a des choses qui nous empêchent d'aimer vraiment et de recevoir son amour et d'aimer. Et il y a Matthieu 12 qui dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Non. Et pour vaincre le mal par le bien, ça implique que nous allions sonder nos cœurs et demander à Dieu de guérir certaines blessures qui nous empêchent de saisir davantage son amour et sa miséricorde. Et n'oublions jamais que ne pouvons pas donner ce que nous avons. Nous ne pouvons pas donner plus d'amour et de mesure que nous croyons en avoir reçu. Ça, c'est très important. Et nous devons réaliser que cet amour et cette miséricorde de Dieu, c'est inépuisable. On ne peut pas aller au bout de tout ça. Donc, je ne peux pas dire, « Ah, je ne donnerai pas d'amour de miséricorde parce que je vais en manquer pour moi. » Non, on peut toujours s'abreuver à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Évangile, de la grâce à chaque jour de se prêcher. Y puiser chaque jour toute la puissance qu'on a besoin pour faire ça. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de dire, « Ah, je le fais parce que Dieu me le demande. » Non, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et comme je vous dis, je suis à des années-lumière de là. Mais je veux aller vers là. C'est mon désir. Je sais que Dieu va le faire parce qu'il dit, l'œuvre qui a commencé à moi, il va la rendre parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, prions. Oh oui, Père Céleste, merci Seigneur parce que ça me rappelle, Seigneur, que j'ai besoin de toi, Seigneur, à chaque jour, Seigneur. Je veux que tu me fasses cette grâce, Seigneur, de puiser en toi, dans ton amour, tout ce que j'ai besoin pour accomplir ta mission. Oui, c'est ce genre d'amour-là qui change des cœurs, qui change des personnes, qui change des familles, qui change des villes, qui change des régions et qui change le monde, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous l'as montré comment, lorsque tu es venu sur la terre, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as vaincu le mal par le bien, en nous faisant le plus grand bien qui a été pour toi le sacrifice de ton Fils, de Jésus à la croix. Oui, que vraiment on puisse aller puiser nous aussi dans ce sacrifice à la croix pour être des preuves que nous sommes des enfants de Dieu, du très haut, des fils et des filles de toi. Mais on doit réaliser notre impuissance. Je dois réaliser mon impuissance, Seigneur. Et je dois dépendre de toi à tous les jours pour la gloire de ton nom. Amen.